Le quart d'heure corésien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM et RGB.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre nouveau numéro du quart d'heure corésien, le magazine d'information santé sur la Corrèze. Comme à l'habitude, je suis en compagnie d'Olivier Serrac. Bonjour Olivier.
Bonjour Thomas Vandendrich.
Comment l'inflation impacte les entreprises corréziennes? Le tribunal de commerce de Brive nous donne les clés pour comprendre la situation. Et puis pour rester dans un volet économique, l'orientation du budget de la Corrèze est débattue cette semaine au conseil départemental. Nous verrons là encore comment l'inflation va pousser les élus à faire des choix. La ministre de l'égalité homme-femme, en déplacement jeudi à Brive, a dévoilé les contours d'un nouveau plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous reviendrons en détail sur ce déplacement. Et pour finir, le portrait de la semaine est consacré à l'un des derniers sculpteurs sur bois de Corrèze, Jacques Soulier, qui nous parlera de sa passion du cheval entre art et petit lama. Sans plus attendre, le quart d'heure corrézien vous a fait maintenant. C'est parti. Avant, les entreprises corréziennes vivent au rythme des crises. La crise sanitaire et son lot de confinement, et maintenant la crise de l'inflation liée notamment aux tensions internationales et à la guerre en Ukraine. Aussi, face à ces crises successives, comment se comportent les entreprises corréziennes? Olivier Serrac, vous êtes allé au tribunal de commerce de Brive et visiblement le nombre de faillites est en train de repartir à la hausse.
Oui, et d'après Corinne Bousquet, présidente bénévole du tribunal de commerce de Brive, ce sont bien ces crises successives qui expliquent la situation actuelle.
Pendant 2 ans, donc depuis la crise Covid, elles ont quand même bénéficié des aides de l'État. Mais elles ont aussi accumulé de la dette. Le PGE, c'est de la dette. La suspension du paiement des charges sociales, c'est de la dette. Et maintenant, quand il faut le rembourser, il faut que l'activité permette le remboursement. Donc c'est ça la difficulté maintenant, auquel s'ajoute en plus la hausse de l'inflation, mais aussi la hausse des taux d'intérêt pour celles qui ont besoin de nouveaux financements.
Et en conséquence, l'activité du tribunal de commerce de Brive repart à la hausse.
On sent depuis les 2 derniers mois de 2022 que ce nombre de défaillances augmente et que des entreprises viennent taper à la porte du tribunal, soit pour demander la liquidation parce qu'elles estiment ne pas pouvoir redresser leur situation ou solliciter un redressement judiciaire pour étaler l'ensemble de leurs dettes.
De ce que peut observer Corinne Bousquet, les toutes petites entreprises employant jusqu'à 5 salariés sont les plus touchées, mais pas que.
On voit quand même les transporteurs qui connaissent des difficultés avec la hausse de leurs coûts. Et puis, pas mal d'artisans du second œuvre, ce qui est assez paradoxal, puisqu'a priori, il y a quand même pas mal de travail dans le bâtiment, mais c'est le reflet du tissu économique.
Néanmoins, si le nombre de défaillances augmente en ce moment, c'est surtout qu'ils retrouvent le rythme d'avant-crise sanitaire, et ce, même si les perspectives de 2023 restent floues.
On se rend bien compte que toutes les entreprises sont quand même confrontées à beaucoup de contraintes, que ce soit de l'inflation, du coût de l'énergie, et puis peut-être d'une consommation qui ne sera pas en grande progression, donc une activité économique pas en expansion en tout cas. Donc je pense qu'on aura quelques défaillances d'entreprise. Mais bon, une défaillance, ça ne veut pas dire la fin, on peut trouver des solutions pour rebondir et pour se redresser.
Parce que c'est aussi là le rôle du tribunal de commerce, accompagner au mieux les entreprises dans leur quotidien.
Je pense que c'est aussi une saine décision, puisque quand on voit que l'on ne pourra pas s'en sortir, il vaut mieux s'arrêter tout de suite plutôt que d'accroître son passif, et ça deviendra de plus en plus compliqué. Le chef d'entreprise sera de plus en plus justement sous pression. Donc à un moment donné, il vaut mieux se dire, eh ben voilà, ça va pas marcher, donc il vaut mieux que je m'arrête et il vaut mieux que je demande une liquidation judiciaire.
En 2022, 28 entreprises ont été placées en redressement quand le nombre de liquidations judiciaires a bondi en Corrèze de 30% par rapport à 2021.
Et de son côté, la préfecture de la Corrèze a décidé d'appuyer l'installation de l'association Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, l'APESA. Présente en Haute-Vienne et dans le Lot, cette association offre notamment une écoute et un soutien psychologique aux entrepreneurs en difficulté. Soutien d'autant plus important que, selon une étude publiée en 2020, en France, 27% des chefs d'entreprise ont songé à se suicider à cause des difficultés rencontrées dans leur travail.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Ce vendredi, les élus du département de la Corrèze ont rendez-vous en séance plénière à l'hôtel Marbeau. Au menu de la journée, notamment les débats des orientations budgétaires pour les mois à venir de la collectivité Et là encore, Olivier, le poids de l'inflation reste prégnant.
Exactement, c'est ce que nous a confié Francis Combi. Il est le vice-président du département en charge des finances.
On prévoit des augmentations, effectivement, des coûts de l'énergie. 13 millions d'euros en augmentation, plus 13 par rapport à 250 et quelques l'année dernière. On serait à 269 ou 270 millions d'euros, plus 13 millions. Et dans ces plus 13 millions, effectivement, il y a des augmentations des coûts de l'énergie au niveau des bâtiments du département, au niveau des collèges. Je rappelle que le département gère les collèges. Au niveau des transports des élèves handicapés, au niveau des véhicules qui sont sur les routes et qui font l'entretien des routes et les travaux sur les routes départementales, tout ceci, donc l'augmentation de l'énergie, va impacter le budget 23.
Et conséquence, des choix d'investissement vont devoir être faits.
L'inflation qui est annoncée à 5 ou à 6%, donc l'État nous compense certaines dépenses, nous attribue des dotations, mais l'État a décidé de figer certaines dotations, une partie des dotations. C'est-à-dire que l'État ne suivra pas l'inflation pour augmenter les dotations au département par rapport à ses missions. Ça risque d'impacter effectivement nos investissements et on peut revoir à la baisse certains investissements si les dotations ne suivent pas l'inflation.
Et s'il est un domaine sur lequel le département pourrait rogner, c'est vraisemblablement le budget alloué à l'entretien des routes.
C'est un budget les plus importants. On met en moyenne 16 millions, voire 18 millions chaque année sur les routes. Les routes départementales, elles sont nombreuses, elles sont fréquentées, elles ont besoin régulièrement d'entretien. Et si les dotations ne suivent pas par rapport aux augmentations des coûts de l'énergie, et puis on pourra reporter donc l'entretien de certaines routes ou les investissements pour renouveler donc la chaussée de certaines routes. Oui, évidemment, de quelques millions, mettons de 5 millions ou de 10 millions de moins, ce qui est quand même beaucoup sur 18, par exemple.
Les débats d'orientation budgétaire ont lieu vendredi 24 février. Quant au budget pour l'année 2023, il ne sera voté, lui, qu'en avril prochain.
Et dans ce contexte, les élus départementaux devront aussi jongler avec l'augmentation des taux d'intérêt. Depuis 2015, la dette du département de la Corrèze est passée de 360 à 270 millions d'euros.
Le quart d'heure corrézien est à retrouver aussi sur bramfm.com et rgb-radio.net.
Isabelle Lombis-Rome était en Corrèze jeudi dernier. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes est venue visiter la maison de soie à Brive, une structure installée à l'hôpital depuis 2 ans, puis elle s'est rendue dans les locaux de l'association SOS Violence Conjugale, association qui se bat depuis 1990 contre les violences faites aux femmes. Une visite, Olivier, qui n'est vraiment pas due au hasard.
Et non, tout simplement parce que le 8 mars prochain, pour la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement doit dévoiler un nouveau plan de lutte contre les violences conjugales. Un plan dévoilé un petit peu par la ministre Isabelle Lombis-Rome.
Il comportera près de 100 mesures autour de 4 axes qui sont donc la lutte contre les violences, l'émancipation économique, l'égalité économique, la culture de l'égalité et la santé des femmes.
Un plan qui se veut ambitieux mais qui espère aussi atteindre au mieux les zones rurales, parce qu'en France, un féminicide sur deux se produit à la campagne.
Il y aura des mesures qu'on appelle des mesures pour l'aller vers, pour se rapprocher justement des femmes qui peuvent être isolées dans les zones rurales. J'ai vu trop souvent des femmes victimes de violences dans des villages qui étaient complètement désemparées parce que seules. Et donc j'ai vraiment souhaité qu'il y ait cet aspect-là qui soit traité. Et j'ai fléché d'ailleurs dans mon budget un dispositif particulier justement pour permettre de développer cet aller vers, que ce soit par exemple à travers des bons taxis pour permettre la mobilité ou aussi la mise en place de vannes qui permettent d'aller sur les places de marché, sur les parkings de supermarchés et qui peuvent aussi justement être en proximité des victimes.
Et pour atteindre cet objectif, Isabelle Lombis-Rome mise aussi sur un autre plan d'accompagnement des victimes.
Le pacte Nouveau Départ donc sera un nouveau dispositif qui va permettre un accompagnement global des victimes, donc à travers une allocation, une aide au retour à l'emploi ou à la formation, un accompagnement psychologique, si besoin, un hébergement d'urgence. L'idée est qu'après un signalement, tout un panel de mesures puisse se mettre en place sans que la victime ait besoin d'aller taper à toutes les portes. Voilà. Et donc le déploiement de ce dispositif commencera la semaine prochaine pour une généralisation sur une petite année.
Reste néanmoins qu'aucun financement réel n'a été présenté lors de cette visite, mais pas de quoi inquiéter Jeannie Tangu, directrice de l'association corrézienne SOS Violence Conjugale.
La question des moyens, elle est toujours aussi prégnante pour l'ensemble des associations, dont la nôtre, mais on se dit que la ministre a pu nous écouter et qu'on reste pleinement à sa disposition pour pouvoir en échanger plus concrètement.
Présente depuis 33 ans sur le département, SOS Violence Conjugale travaille tous les jours à faire évoluer les mentalités.
Nous cherchons à sensibiliser, à informer le tout public, les professionnels, et on travaille aussi au plus tôt auprès des plus jeunes sur des actions de prévention en milieu scolaire et étudiant. Ça nous paraît essentiel. Quelque part, on essaie bien d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour le changement finalement du regard de la société sur la question des jeunes filles, des femmes et des violences sexistes et sexuelles. Effectivement, pour pouvoir continuer à assurer nos missions et de façon pérenne et consolidée, en effet, ce sont des moyens financiers qui sont nécessaires pour pouvoir avoir des moyens humains et des compétences au quotidien.
En 2022, l'association SOS Violence Conjugale a accueilli et accompagné 367 victimes. Parmi elles, 351 étaient des femmes.
Et si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales, vous pouvez joindre le 3919, le numéro d'urgence, gratuit et totalement anonyme, et ouvert tous les jours, 24 heures sur 24.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Place à présent au portrait de la semaine, portrait qui vous permet de vous rencontrer et de vous mettre en valeur. Et cette fois-ci, vous allez découvrir Jacques Soulier, dernier sculpteur sur bois de Tulle et peut-être l'un des derniers en Corrèze.
Sur le quai Gabriel Péri à Tulle, la boutique attire l'œil. Sur la devanture, il est écrit Jacques Soulier, sculpteur sur bois. Le bois d'ailleurs, il est omniprésent lorsqu'on rentre dans l'atelier. Un poêle se dresse au milieu du bazar. Il tient chaud au vieil homme de 64 ans penché sur son établi. Aujourd'hui, il sculpte des cavaliers pour un échiquier. Il en profite pour nous expliquer la technique qu'il utilise depuis bientôt 40 ans pour sculpter à partir d'un morceau de bois brut.
La première des choses, c'est de faire un dessin. Ensuite, parfois, il faut la modeler, c'est-à-dire qu'on travaille dans la terre glaise, parce que, évidemment, sur un dessin, c'est un plan. Donc, un plan, on n'a pas le relief. Et puis après, eh bien, on prend un morceau de bois, on enlève le plus gros de ce que l'on peut enlever avec une scie à ruban, c'est-à-dire qu'on chantourne, c'est le terme exact. Et puis après, il faut dessiner, reporte le dessin sur la pièce de bois, et on enlève le bois jusqu'à obtenir les mêmes formes que celles que l'on avait, ou les mêmes lignes que l'on avait sur la terre glaise.
Et si la technique est importante, le choix des essences de bois est indispensable.
Je travaille quasiment exclusivement des bois français. Je vais les chercher à Naves, à la gare de Naves. C'est principalement le noyer, le cerisier, on peut travailler le houx, qui est un très beau bois qui reste blanc, le tilleul, qui est un bois qui prend bien la peinture et les finitions, et surtout qui permet de faire des grandes pièces. Donc on travaille ce bois pour faire des grandes statues, notamment les grandes statues qu'il y a dans les églises et tout ça.
Pourtant, même avec autant d'expérience, Jacques Soulier se trompe encore parfois.
On n'est pas dans le bois. Quand on a l'habitude avec l'expérience, on se rend compte que certaines pièces seront bonnes, d'autres ne seront pas bonnes, mais bon, c'est au client après à savoir choisir. Un musicien, en fonction de la qualité du veinage et de l'orientation du veinage et tout ça et tout, mais il va choisir tel ou tel violon. Bon, d'accord, lui, il va se sentir à l'oreille. Un instrument répondra mieux qu'un autre, mais il peut le voir déjà à l'œil.
Mais à 64 ans, la retraite paraît encore loin pour le sculpteur sur bois.
C'est ma santé qui le dira, parce que c'est dur maintenant. Comme tous les artisans, je n'aurai pas une très grosse retraite. Et je dirais même qu'actuellement, je n'ai pas mes trimestres. Et pourtant, j'ai travaillé à 16 ans.
Et si la question de la transmission se pose pour lui, ça ne paraît pas une évidence. Son métier évolue pour ne pas disparaître et Jacques Soulier préfère laisser ça à la nouvelle génération.
Et si vous souhaitez rencontrer Jacques Soulier pour lui acheter une de ses œuvres ou tout simplement pour discuter, n'hésitez pas à passer la porte de son atelier au 31 quai Gabriel Péri à Tulle. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce 11e numéro du quart d'heure corrézien. Merci à vous Thomas Vandendrich. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'informations corréziennes. D'ici là, passez une bonne journée sur nos ondes.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien à réécouter sur bramfm.com et rgb-radio.net.